C'est le 28 décembre, et à Rencontre spirituelle, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus difficile. C'est dans toute l'Église catholique, à tout le moins, ce qu'on appelle la fête des saints innocents. C'est un sujet difficile, parce que les exégètes, les spécialistes de la Bible ne s'entendent pas tous pour interpréter ce fait qui nous est raconté dans l'Évangile de saint Matthieu. Mais dans le « Prions en Église », où on trouve la messe de chaque jour, c'est le « Prions en Église » mensuel dont je vous ai parlé plusieurs fois et auquel on peut s'abonner pour la somme infime de $13.50, imaginez, vous avez 12 livraisons par année. À votre porte, c'est pas cher, $13.50 pour avoir toute la liturgie de tous les jours, y compris les dimanches, évidemment. Et on s'abonne, je vous l'ai déjà dit, chez Novalis. Je vous donne le numéro de téléphone qui est 278-3025. Ils ont même une ligne sans frais. 1-800-668-2547. Je fais cette publicité parce que je la trouve importante si l'on veut vraiment comprendre les fêtes non seulement des saints, mais aussi les grandes fêtes que célèbre l'Église tout au long de cette année qui a commence habituellement, n'est-ce pas, au début du mois de décembre, c'est-à-dire au premier dimanche de l'Avent. L'année catholique commence et le nouvel an à ce moment-là pour nous catholiques. Nous allons célébrer avec nos concitoyens le nouvel an le 1er janvier, mais au fond, je vous en parlerai de toute façon à cette occasion, de ce que je pense de cette fête. C'est une toute autre fête, heureusement, dans l'Église où l'on fête la Sainte Famille, où on fête la Sainte Vierge. Donc, je reviens aux saints innocents, et dans le « Prions en Église », on écrit ces quelques lignes, oh, c'est tout bref, hein, c'est 6 lignes. « Le climat de Noël est vite attristé par la méchanceté des hommes » et les malheurs du monde. Et la fête des saints innocents vient nous rappeler, oui, nous rappeler que la souffrance et la croix accompagnent, comme nécessairement, le salut apporté par Jésus. Et c'est vrai que, on dirait que tout le monde souffre de toute façon, et c'est au cru de cette souffrance, au cru de ces difficultés, que la plupart des gens qui se convertissent et qui trouvent la joie et le bonheur d'adhérer au Christ, c'est là qu'ils le trouvent. C'est curieux comment nous sommes faits. On dirait que c'est nécessaire de souffrir, ou à tout le moins un peu. Mais je ne souhaite à personne de souffrir, et je ne souhaiterais certainement pas à qui que ce soit, d'éprouver d'immenses et de grandes souffrances. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, je vous lis l'Évangile d'aujourd'hui. C'est basé là-dessus. C'est un texte de saint Matthieu. C'est le seul à parler des saints innocents. Qui sont les saints innocents? Mais si vous écoutez bien, ceux qui connaissent pas ce que c'est, vous allez comprendre. Après la visite des mages à Bethléem, les mages, ce sont les rois mages, on voit ça dans toutes les illustrations, les crèches des mages, c'est-à-dire des sages. Il n'est pas dit des rois. Donc, à la visite des mages à Bethléem, où est né Jésus, là, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, le père de Jésus, évidemment, et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte et reste là jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode, c'est le roi, ça, Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Pourquoi? Il veut faire périr ce futur roi d'Israël, il veut pas perdre son trône. Hein? » Et saint Matthieu ajoute, Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant, Jésus, et sa mère, Marie, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, et ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Ce sont des textes qui sont extraits de l'Ancien Testament, c'est ça que ça veut dire, hein? S'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Bon, je continue. Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. C'est un vieux texte, n'est-ce pas? D'autres disent que c'est Isaïe, je ne comprends pas du tout, c'est Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Qu'est-ce que vient faire Rachel dans tout ça? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ça m'avait toujours semblé étrange quand j'étais jeune, ce cri de cette Rachel. Il faut dire que, je vous le dis tout de suite, tiens, Rachel, dans la tradition juive, c'est un personnage de l'Ancien Testament, dont on prétendait que son tombeau était près de Bethléem. Alors, donc, il fait l'association, n'est-ce pas? Matthieu fait l'association entre Rachel et Bethléem. Et Rachel pleurait des soldats juifs qui avaient été, de 3 tribus, qui avaient été massacrés. Et elle a pleuré, le prophète raconte ça. Et puis, Matthieu fait une espèce de rapport entre les larmes de Rachel et les larmes des femmes au temps de Jésus qui pleurent leurs enfants massacrés par Hérode. Bon, est-ce qu'on est obligé de croire que tout ça, c'est vrai, là? Il paraît que non. C'est pas obligatoire. Et il reste quelque chose d'obligatoire, par exemple, et c'est ça le plus important. De part et d'autre, pour ceux qui croient au mage, pour ceux qui croient, qui sont venus offrir des choses à Jésus, pour ceux qui croient qu'il y a eu ce massacre, pour ceux qui veulent croire tout ça, et rien ne s'oppose à ce qu'ils y croient, n'est-ce pas? Ce qu'il faut retenir, c'est que des innocents sont massacrés. Ce qu'il faut retenir, c'est cette espèce de prophétie que renferme ce texte à l'égard de Jésus, qui, lui, l'innocent parmi tous, homme sans péché, homme d'une bonté parfaite, homme d'une générosité sans borne, homme d'une humilité totale, Dieu fait homme, sera massacré. Il sera massacré. Et il dira d'ailleurs, « Mon royaume n'est pas de ce monde, il accepte d'être roi, mais pas du royaume d'Hérode, pas de ce royaume sans intérêt, du royaume petite couronne, et du pouvoir souvent qui est exercé de façon extrêmement terrible et malhonnête. Il y a eu de bons rois, mais que de mauvais rois, hein. Que d'hommes troublés par leur propre puissance. Eh bien, Jésus n'est pas de ce genre de roi. Son royaume, c'est un royaume intérieur. C'est de régner sur les âmes, non pas pour les écraser, régner sur les âmes pour les libérer. Et c'est ce qu'il est venu faire, hein. C'est ça, Jésus. Dans de beaux textes, vous avez dû lire ça, hein, pour vous, qui est Jésus-Christ? Il y a de très, très beaux textes. Et je pense au texte d'Olivier Messiaen, compositeur, ornithologue, oui, spécialiste des oiseaux. Il a beaucoup composé en partant du chant des oiseaux. Hein, vous connaissez, qui était membre de l'Institut, qui était l'un des plus grands compositeurs de ce siècle. Et immense croyant, immense catholique. Il est mort il y a peu de temps. Et au sujet de Jésus-Christ, je trouve que c'est un beau texte à lire au temps de Noël et en ce jour de la fête des saints innocents. Non pas parce qu'Olivier Messiaen était un innocent, mais c'est parce que son âme était si belle. Hein? Combien de fois je l'ai entendu improviser à son orgue à l'église de la Sainte Trinité à Paris. Il improvisait de façon absolument magistrale sur un thème grégorien. C'était de toute beauté. Mais voici son texte sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre modèle. Jésus-Christ est notre voie. V-O-I-E, notre chemin, si vous voulez. Jésus-Christ est le Fils de Dieu incarné. Jésus-Christ est Dieu. Sa vie, sa mort, sa résurrection, son retour glorieux sont les seuls événements valables dans l'histoire des hommes sur la planète Terre. Il n'y va pas de main morte. En nos jours de recherche scientifique passionnée, on peut rêver à perte de vue dépasser en esprit notre petit système solaire et supposer, près des autres étoiles, des mondes habités par d'autres êtres intelligents qui seraient encore en attente d'un sauveur ou qui auraient déjà bénéficié comme nous d'une rédemption. Il reste que la planète Terre a été favorisée du don unique, l'incarnation du Verbe, l'irruption de l'invisible dans le visible, de l'éternel dans le temporel. Pour sortir de cet espace et de ce temps qui nous sont familiers, pour accéder à la résurrection et à une vie nouvelle dans d'autres dimensions, sans doute faut-il passer par la souffrance et la mort. Hein? On y est, il faut passer par la souffrance et la mort pour y accéder. Mais n'ont-ils pas déjà quelque avant-goût de la vision de gloire, ceux qui, répondant aux paroles de la consécration, peuvent s'écrier dans toute la force de leur foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il faut vous dire que Olivier Messiaen, qui assistait à la messe tous les jours, quand il voyait l'hostie s'élever au moment de la consécration, s'écriait toujours « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et ce sont les paroles, après la résurrection de Jésus, qui sortent de la bouche de saint Thomas, qui n'osait pas croire que le Christ était ressuscité, qui voulait pas trop y croire, et qui disait « Je n'y croirai que quand j'aurai pu mettre mes mains dans ses plaies ». Eh bien, Jésus apparaît, et Jésus lui montre ses plaies. Il s'agenouille, et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est le premier, on peut dire, à reconnaître d'une façon aussi totale la divinité de Jésus. Alors, je reviens donc aux mages, qui sont partis après avoir annoncé naïvement à Hérode, établi roi de Judée par les Romains, la naissance d'un roi des Juifs. Et Hérode, donc, a voulu éliminer ce rival, ce jeune Jésus. Alors il est furieux, il envoie tuer dans Bethléem, dans tout son territoire, tous les moins de 2 ans, d'après la date, comme dit saint Matthieu, qui s'était fait préciser par les mages. Et alors s'accomplit, comme dit saint Matthieu, l'oracle du prophète Jérémie. Dans Rama s'est fait entendre une voix qui sanglote, et beaucoup de gens se lamentent, et c'est Rachel qui pleure ses enfants, et ne veut point qu'on la console, car ils ne sont plus. Et saint Matthieu, qui est le seul à raconter ça, comme je vous ai dit, évoque donc l'Ancien Testament, comme il le fait volontiers, d'ailleurs, tout au long de son évangile. C'est assez intéressant, d'ailleurs, il fait des rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament, puis une tradition, je vous l'ai dit, mettait le tombeau de Rachel, la femme de Jacob, près de Bethléem. Et le texte qui est cité, bien, s'y visait les hommes de la tribu d'Éphraïm, de Manassé et de Benjamin, les 3 tribus, qui avaient été massacrées ou déportées par les Assyriens. Et leur aïeul, Rachel, leur grand-mère, pleurait. Et qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, le nom de Rachel? Ça veut dire, je ne le savais pas, mais j'ai découvert ça, ça veut dire brebis. C'est assez sympathique, une brebis qui pleure ses petits. C'est une opération de police, donc, que lance Hérode. Combien de morts? Les meilleurs exégètes, les meilleurs spécialistes de la Bible évaluent ça, si ça a eu lieu, à 20 ou 30 petites victimes. Vous direz, c'est pas beaucoup. On est tellement habitué à des crimes insensés aujourd'hui. Ça se calcule par millions. Ça se calcule par dizaines de millions en ce 20e siècle. Là, c'est 20 ou 30. Saint Matthieu rapporte qu'un ange avait averti Joseph, qui s'était retiré en Égypte avec Jésus et Marie. Et Hérode a eu beau tuer ses enfants, il n'a pas réussi à attraper Jésus. C'est Auguste qui disait de cet Hérode, qui était un criminel qui avait tué son fils, « Mieux vaut être le goret d'Hérode que son gosse. » En d'autres termes, mieux vaut être un cochon qui va être tué et qui va être préservé, c'est-à-dire que son enfant qui sera tué, car le roi Hérode ne tuait pas les porcs. C'était un animal tabou, hein, chez les Juifs. On n'en mangeait pas comme si les musulmans aujourd'hui encore, ils ne mangent pas de porc, c'est tabou, c'est un animal tabou. Mais au besoin, ce cher Hérode se débarrassait de son fils. C'est donc le plus ancien texte que l'on retrouve qui commémore les petits innocents. On trouve ça très assez tardivement dans un calendrier de Carthage. C'est non loin de Tunis, ça. Carthage, en Tunisie, en Afrique du Nord. C'était une grande ville chrétienne, Carthage. Elle a été détruite en 698. 698, c'est donc quelques années après l'apparition de l'islam, et elle a été en effet détruite par les Arabes. Les saints enfants que Hérode a tués, dit le texte du calendrier de Carthage, et c'est commémoré déjà au 28 décembre, et c'est aujourd'hui le 28 décembre. Dans un autre martyrologe, qui porte aussi la date du 28 décembre, on déclare à Bethléem l'anniversaire, c'est-à-dire, quand on parle d'anniversaire dans ces vieux textes, on veut dire la naissance au ciel, la naissance, natale, dies natale, dans ce sens-là. À Bethléem, l'anniversaire des saints innocents et nourrissons qui, sous Hérode, souffrirent pour le Christ. En tout cas, de toute façon, on ignore à quelle époque vraiment la liturgie a commencé à célébrer ces petits martyrs. Autrefois, il y avait des poèmes du grand poète Prudence qui a écrit ça, oh mon Dieu, vers l'an 400 à peu près, puisqu'il est mort au début du 5e siècle, vers 380-400. On avait dans la liturgie des poèmes de lui. On chantait aux vêpres des saints innocents, des strophes de cet écrivain espagnol. Oui, c'est un écrivain espagnol, Prudence. On disait « Salut, fleur des martyrs, qu'au seuil même du jour, l'adversaire du Christ a fauché. » Au seuil même de leur vie, si vous voulez. Au commencement de leur vie, l'adversaire du Christ les a fauchés. « Comme l'ouragan, les roses naissantes. » Et il ajoute, c'est assez étrange, « Vous, les premières victimes du Christ, tendre troupeau d'immolés. Devant l'autel, vous jouez sans façon avec la palme et les couronnes. » Il se les présente comme des petits angelots ou des petits enfants, quoi, qui jouent devant l'autel de, éternel de Dieu au ciel, là. Ils jouent sans façon, ils ont à la main une palme du martyr qu'on leur a remise, mais ils savent pas trop ce que c'est, puis alors, ils jouent avec comme avec un hochet. Puis on leur a donné aussi des couronnes du martyr. Mais ils en font des cerceaux, puis ils jouent avec. C'est ça que ça veut dire, hein? Je vous relis le texte. Vous, les premières victimes du Christ, tendre troupeau d'immolés, devant l'autel, vous jouez sans façon, avec la palme et les couronnes. Ça a besoin d'explications pour me comprendre l'espèce d'humour étrange, hein? Charles Péguy, au 20e siècle, dans son Mystère des saints innocents, on lisait ça quand j'étais au collège, dans les années 40, il imagine que ces petits innocents de l'âge de l'enfant Jésus jouent justement au cerceau avec leur couronne. Et Saint Paulin de Nol, dont je vous ai parlé le 22 juin, là, ce fameux homme très très riche qui a tout sacrifié pour se faire évêque dans la région du sud de l'Italie, la région de Naples, mais imaginez ces jeunes enfants qui jouaient dans un bosquet parfumé du paradis. Il les voyait comme ça. Que d'imagination. Et on songe à ces... C'est ça qui est resté dans l'art, hein. C'est très la mode aujourd'hui de donner en cadeau. On voit ça sur la rue Saint-Denis, un peu partout même. Dans les grands magasins, dans les départements, les rayons des cadres. On voit des petits angelots. Et c'est encadré. Les gens se donnent ça parce que c'est la mode. Les anges sont revenus à la mode, hein. Alors, ce sont des angelots, des petits amours. On retrouve ça dans l'art antique avant Jésus-Christ, c'est curieux. Et ils sont restés dans l'art, ils sont devenus les angelots, ils sont devenus souvent des saints innocents. Selon un très grand spécialiste de notre histoire liturgique, Louis Duchesne, qui a écrit des ouvrages absolument magnifiques, dont spécialement les origines du culte chrétien en 1925, j'ai déjà lu ça, j'ai ça dans ma bibliothèque, c'est passionnant à lire. Mais la fête de ces petits innocents a dû commencer au 5e siècle seulement. D'autres disent au 6e, mais il semble que lui soit plus sûr, ce Louis Duchesne. On la trouve dans les calendriers, d'ailleurs, dans les livres liturgiques latins, depuis environ l'an 450. Et à Constantinople, lui fêtait ça le lendemain, le 29 décembre. Connaissez-vous les mozarabes? Ils ont laissé dans la liturgie des chants, la liturgie mozarabe, des chants mozarabes. On avait ça autrefois dans notre liturgie, c'est disparu. Ils les commémoraient, eux autres, le 8 janvier, parce qu'ils associaient ça à la fête de l'Épiphanie. Puis, chez les Arméniens, etc., on voit que l'Église n'était pas encore très unifiée. Elle ne l'est pas encore aujourd'hui non plus. Ils avaient d'autres fêtes à d'autres jours. Je reviens aux chiffres là, de 20 à 30, hein. Innocents qui auraient été, petits enfants qui auraient été massacrés. Je vous lis ça parce que je trouve ça tellement étrange. Il faut bien un peu rigoler. Savez-vous combien dans les synaxaires, ou si vous voulez, dans les espèces de martyrologes, les listes des martyrs et des récits de vie de saints, là, des Grecs, il y a très longtemps, combien on croyait qu'il y avait d'enfants, bien, eux, ils les évaluaient à 14 000, comme quoi, avec le temps, les chiffres augmentent. Faisons bien attention. Et un autre, dans ses commentaires, Salmeron, propose ce nombre aussi, il prétend, lui, que c'est d'après un texte authentique, prétend-il, éthiopien. Et il fait ça dans ses commentaires sur cet évangile. Saint Jérôme, lui, pour sa part, parlait de plusieurs milliers. Le texte latin, c'est « multa parvulorum milia », donc plusieurs milliers d'enfants. Les Syriens, eux, ah, ça, c'est du monde qui savent exagérer avec beaucoup de générosité. Ils ne se gênent pas. J'en profite pour saluer une dame qui m'envoie des lettres dithyrambiques, qui vient même à ma porte me porter des cadeaux charmants, de petits cadeaux adorables. Elle est vraiment très sympathique. Une Syrienne catholique d'une grande foi, Madame Laila Rabat. Je la salue. J'en profite. Donc, les Syriens, eux, avaient fait monter le chiffre jusqu'à 64 000. Comme quoi, ils sont bien généreux. Dans... ils aiment exagérer. C'est sympathique. Il faut pas leur en vouloir. Mais il y avait aussi un martyrologe. Ça, c'est absolument fantastique. C'est un martyrologe usuardin, c'est-à-dire qui dépend de ce fameux spécialiste, le usuard, dont je vous ai déjà parlé. Et ce martyrologe, on le dit Aguenot, mais il fixait le total à quoi? 144 000 enfants martyrisés. Imaginez, c'est toute une population. Mais c'est évidemment le chiffre qui est tiré du septième chapitre de l'Apocalypse. Hein. Vous vous souvenez, les 144 000, ce qui fait dire aux témoins de Jéhovah qu'il n'y aura que 144 000 élus. Et ce nombre indique symboliquement, d'ailleurs, cette somme des élus. Certainement pas celle des tués. Et nous viendrons plus tard à comment interpréter cette fête pour en vivre et pour en faire nôtre quelque chose de vraiment valable? Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle avec les saints innocents. Oui, je parle pas évidemment de notre metteur en onde ou des gens de Radio Ville-Marie. Non. Les saints innocents, c'est tout autre chose. Ce sont ces pauvres enfants qui, selon saint Matthieu, aurait été tué à la demande du roi Hérode afin de pouvoir supprimer Jésus, Hérode craignant de perdre son titre de roi. Et alors, pour célébrer ça, croyez-le, croyez-le pas, en France, en Allemagne, en Angleterre, la coutume s'est formée de régaler les jeunes séminaristes, les plus jeunes séminaristes, le 28 décembre. Il formait alors, comme qui dirait, un gouvernement. Et alors, ils élisaient un évêque parmi eux. Oui. C'était surprenant ce qu'on faisait dans ce temps-là. Ils occupaient les stalles dans les cathédrales. Puis, au verset du Magnificat, là, ils déposent les puissants de leur trône. Eh bien, la crosse de l'évêque passait au jeune évêque qui avait été élu, et finalement au futur évêque des fous, quand on organisait des fêtes des fous. Il faudrait que je vous parle de ça. C'était extraordinaire dans l'Église, comme on avait le sens de la blague. Et d'ailleurs, ça tournait un peu au ridicule, évidemment, à la longue, ça a été supprimé. On faisait cette fête des fous pour la fête de la circoncision. On commémorait donc l'initiation juive de Jésus, Le 1er janvier, autrefois, ça a été supprimé depuis le Concile. Il y avait des synodes régionaux qui ont condamné certains de ces épisodes qui étaient vraiment burlesques. On faisait d'ailleurs des danses avant l'élection de l'évêque des enfants. Oui, ça a été supprimé, ça, à Cognac, en France, en 1260. À Saint-Étienne de Caen, la ville de Caen qui est en Normandie, une grande partie des Québécois viennent de Normandie, depuis déjà plus de 300 ans, évidemment. Eh bien, nos ancêtres, en 1423, à Saint-Étienne de Caen, on remettait à la petite abbesse, celle qui était élue abbesse, des petites religieuses en herbe, là, remettait 6 sous qu'elle puisse faire des largesses. Elle ne devait pas pouvoir faire beaucoup de largesses avec 6 sous. Hein. Et à Sainte-Croix de Poitiers, vous, parmi vous qui connaissez des pots de vin, là, ça vient de Poitiers, ça. Eh bien, la fameuse église Sainte-Croix, qui est magnifique, il faut visiter ça à Poitiers, hein. Mais on donnait 5 sous pour le petit évêque, pour qu'il puisse aider les innocents, c'est-à-dire les jeunes, qui lui étaient, pour une journée, assujettis. Ça, c'était à la fin du 15e siècle, ça durait encore vers 1475. Pour corser la cérémonie, il y avait des dialogues qui se sont instruits vers le 11e siècle. Ça a duré. Des dialogues qui existaient entre la personne qui jouait le rôle de Rachel et un ange, puis entre les innocents et un ange, puis entre Rachel et les personnes qui essayaient de la consoler de ses larmes. Il y avait un agnelet aussi qui précédait la procession des innocents. Il y a même, à Munich, dans la bibliothèque de Munich, un drame de l'époque, un manuscrit. Et d'après ce manuscrit, on mettait en scène les prophètes, donc Jérémie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autres, les bergers, les mages, puis finalement le massacre des innocents. Heureusement que tout ça est disparu. Hein. Nous, on a gardé que les bonnes crèches vivantes, comme on en a dans le Vieux-Port. Et là, le 28 décembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui, les gars les plus travailleurs, là, les plus diligents, allait surprendre les paresseux, les fouetter dans leur lit. Cette plaisanterie s'appelait « bailler les innocents ». Mais soyons sérieux, pourquoi peut-on dire que ces petits-enfants ont donné leur vie? Sans parler, sans rien dire, sans dire un mot, quoi. Ce sont des exemples chez les moines. C'est vrai que les moines tiraient profit de ça. Pourquoi? C'est parce que dans la règle des moines, dans la règle de Saint-Benoît, au chapitre 6, c'est écrit « Se taire convient aux disciples ». Et c'est pour ça que le silence est si rigoureusement pratiqué dans les monastères. Du moins, il l'était quand j'étais là. Au chapitre 7 de cette règle de Saint-Benoît, il est dit « Dans l'obéissance, qu'on embrasse la patience silencieusement ». En somme, obéir, sans maugréer, sans dire un mot, mais avec beaucoup de patience et de sérénité. Il est dit aussi, c'est-à-dire, on peut conclure que nous, si on veut se modeler sur les moines, nous devrions donc supporter tout ce qui est contrariant dans nos vies. Et d'ailleurs, dans un psaume, le psaume 43, au verset 22, il est dit, et ça peut s'adresser ça aux souffres-douleurs, les gens qui sont accusés faussement et qui ont l'impression, entre les cas, d'être des souffres-douleurs. C'est très beau, ça. Moi, j'étais un peu souffre-douleur à l'école quand j'étais jeune. Et je me souviens combien je trouvais ça difficile. C'est très dur d'être souffre-douleur. On dit ce texte, je le lis pour tous les gens qui ont souffert comme moi d'être un enfant. « Pour ton amour, nous sommes éprouvés tout le jour. On nous prend pour des brebis d'abattoir. » Et ça s'applique très bien à Jésus-Christ. Il s'agit donc, non de se couper la tête, mais de tuer en nous toutes sortes de petits vices, de petites prétentions, de mouvements d'orgueil. Et c'est ainsi qu'on va proclamer notre foi, non plus seulement par des paroles, mais par notre vie elle-même, notre vie qui sera libérée de toutes ces servitudes qui sont des amis de la mort spirituelle. Hein? Les gens qui portent rancune, qui ne savent pas pardonner, qui tricotent en eux toutes leurs petites souffrances, qui dit « Ah oui, quand j'étais jeune, mes parents m'ont fait ci, ma mère m'a fait ça, mon père m'a fait ci, à l'école c'était comme ça, et là, et toutes sortes de choses. » Ça entraîne une espèce de mort spirituelle, c'est-à-dire que ça ne leur permet pas de vivre dans le don d'eux-mêmes, à penser aux autres vraiment, à penser à chanter la gloire de Dieu. D'ailleurs, on chante dans la collecte de Noël, dans l'oraison. On demande une nouvelle naissance pour nous débarrasser du vieux joug des péchés. Et il y a dans le bréviaire aujourd'hui des chants superbes qui m'entraînent à vous parler de tous ces innocents qui sont tués dans le monde. Je parle de ces enfants non-nés, de ce ravage épouvantable. Ces avortements sans nombre, on ne peut plus les calculer, c'est par dizaines de millions dans le monde. Il y a l'hymne à l'office des lectures qui est très beau à ce sujet. Et ça nous fait parler à tous ces petits qui souffrent, ces enfants martyrisés, ces enfants maltraités. Voici ce texte de l'hymne qui est très, très beau. Pourquoi ce lourd silence, Dieu caché, quand tombent sous le glaive les innocents? Ta parole n'est proférée que par les cris d'un enfant. Un jour, il nous dira de quel amour tu nous aimes. Il vient parmi les hommes, Dieu caché, pour mettre enfin le glaive à son fourreau. Mais le prix qu'il devra livrer, Jésus, c'est tout son corps au bourreau. Le monde alors verra de quel amour tu nous aimes. Mais je reprends les premières paroles. Et pourquoi ce lourd silence, Dieu caché, quand tombent sous le glaive les innocents? Comment se fait-il, ce silence perpétuel de Dieu? C'est pas vrai. Dieu crie par la bouche de ceux qui y croient. Dieu crie par la bouche en particulier du pape qui nous rappelle que l'on doit respecter les enfants. Mais on ne l'écoute plus. Il le dit très clairement, son opposition à l'avortement. Est-il le seul à parler comme ça? Mais non, il y a des milliers de gens qui le parlent, qui le disent. Est-ce qu'il n'y a que les catholiques pour le dire? Mais pas du tout, les juifs aussi. Les juifs pratiquants, les juifs croyants. Les musulmans, très sérieusement aussi, s'opposent à l'avortement. Est-ce que c'est signe qu'il faut croire à Dieu pour s'opposer à l'avortement? Pas du tout. Que de savants agnostiques et athées, que de médecins agnostiques ou athées, que de gens sérieux simplement dans la société qui sont athées ou agnostiques s'opposent à l'avortement, car ils voient bien que sur le plan biologique, il y a là quelqu'un. D'ailleurs, quels sont les critères qui peuvent permettre que l'on croit qu'il n'y a rien là? Il n'y en a pas de critères. On prétend la femme est maîtresse de son corps, mais ça n'est pas son corps. Je vous donne un exemple. On trouve ça dans certains textes de morale. On raconte que dans un village américain, un blanc a été tué. Et ça a entraîné la colère de la majorité blanche qui a menacé de provoquer un bain de sang parmi la minorité noire, si le coupable n'était pas rapidement châtié. Et le shérif blanc, ne sachant qui était le coupable, et se préoccupant d'abord du bien commun, décida, alors, de condamner injustement un noir innocent, parvenant ainsi à rétablir la paix sociale dans le village. Et c'est en réalité ce qu'on propose de faire, quand on accepte qu'une loi puisse permettre de supprimer des vies innocentes, des saints innocents si on veut, pour protéger le bien commun. Or, en aucun cas, une injustice envers quelqu'un, et a fortiori un meurtre injuste, ne pourra être un moyen adéquat pour atteindre la paix sociale. C'est ce qu'a fait Hérode, d'après ce texte magnifique de saint Matthieu. La leçon qu'on doit en tirer, c'est pas de se souvenir de ces saints innocents. La leçon qu'on doit tirer, c'est de se souvenir des innocents qui aujourd'hui sont massacrés. Les savants le savent, c'est une valeur fondamentale. Hein? La vie qui bat au sein de la mer est bien plus qu'une simple valeur fondamentale. Hein? Elle est une vie humaine, un être humain, un être de chair et de sang. On le sait maintenant, on le voit sur les écrans cathodiques. On le voit dans ces revues comme Paris Match, Life, Time Magazine. Dans des revues scientifiques, de plus en plus, les photos en couleur nous sont livrées et nous montrent l'enfant. On le voit à la télévision, dans des films admirables. Des films d'une heure qui nous montrent dans les moindres détails l'immense et magnifique phénomène de la vie humaine qui jaillit à partir d'une première cellule. On le voit maintenant. C'est incroyable. Ce qui m'importe au fond, pour ma part, en ce jour de la fête des saints innocents, c'est le sort réservé à l'être humain qu'on oublie complètement quand on raisonne de n'importe quelle façon. On n'a pas le droit de raisonner n'importe comment. Le docteur Nathanson, on revient souvent à lui, mais il n'est pas seul, c'est plein de médecins juifs incroyants ou de médecins incroyants tout simplement, qui ont été pendant un certain temps des avorteurs reconnus et qui luttent maintenant. J'en ai entendu à la télévision américaine, je le lis dans Time Magazine et dans d'autres revues américaines. Ici, il y a une espèce de censure sur ces merveilleux personnages qui luttent maintenant depuis des années contre la légalisation de l'avortement. Ils ne cessent pas de dire qu'ils sont incroyants pour tout ça. Ce qu'ils comprennent, tout simplement, ils le comprennent en étudiant la biologie, la nature de l'embryon. Ils comprennent que nous avons bel et bien affaire à un être humain. Dès l'instant de la conception, tout est là. Et on manque de respect, d'ailleurs, à l'égard des fœtus qui avortent naturellement. Il y a là, dans notre société, un manque de respect. Un manque profond de respect pour ces petits non-nés. Les chrétiens devrait reconnaître encore davantage que la vie en gestation, c'est un être voulu et aimé de Dieu. Est-ce qu'on peut dire que les parents font les enfants? Est-ce que ce sont les parents qui font des cerveaux, des yeux, des oreilles, des mains, un cœur qui bat depuis le 19e jour après la conception? Les parents ne savent pas comment faire un enfant. Je ne saurai jamais assez le répéter jusqu'à ma mort. Le mystère de la vie est un mystère sacré. C'est un des êtres que Dieu fait, d'après une entente avec les êtres humains comme avec les animaux. L'union des corps dans une jouissance qui est déposée au creux de cette union fait que Dieu collabore. Et cette collaboration inévitable de Dieu, à moins, évidemment, que qu'il y ait une période de non-fécondation, etc. Jamais, 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 nous, les chrétiens, on pourra accepter une loi, il me semble, qui permet la suppression aussi facile des vies innocentes qui n'ont d'autre voie que les saints innocents qu'on célèbre aujourd'hui. Qui n'ont d'autre voie que la leur pour faire valoir leurs droits. Et c'est une voix sans cri. C'est une voix muette. Mais c'est la voix de la science, hein, qui respecte et qui doit voir ce qui est. Jamais l'Église, depuis la toute première communauté chrétienne qui s'est opposée à l'avortement, au temps de l'Empire romain, malgré les risques qu'elle encourait dans ce temps-là, jamais l'Église n'a accepté la légalisation de l'avortement. Tout au long de ces 2000 ans d'histoire, mais elle a dû lutter contre le paganisme. Et aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler des païens, c'est-à-dire des gens non chrétiens, sont souvent de meilleurs défenseurs de l'enfant à naître. Car on les écoute davantage parce qu'on ne les soupçonne pas de parler à cause de leur foi, mais ils parlent à cause de la science. de leur connaissance profonde de la biologie et de la nature humaine. Et on le sait, les psychologues et les psychanalystes le disent, Madame Dolto, cette éminente psychanalyste française, si respectueuse de la femme, étant d'abord femme elle-même, le disait bien à une des émissions que j'ai faites avec elle, combien les femmes qui s'étaient fait avorter étaient troublées malgré elles. Elles étaient marquées tout au long de leur vie. Du moins, c'était l'opinion de Madame Dolto. Les évêques canadiens ont bien dit que la présente loi qui existe au Québec, c'est-à-dire l'absence de loi, est inacceptable à leurs yeux. Chaque fois que les évêques prennent la parole sur cette question délicate, ils invitent toujours les chrétiens, et je m'adresse actuellement à des chrétiens surtout. Ils nous invitent, et c'est très important, n'oublions jamais ça, ils nous invitent à la compassion envers les femmes, qui ne voient plus d'autre solution que l'avortement. Quand vous rencontrez une personne qui s'est faite avorter, ne la regardez pas d'un regard sévère, je vous en supplie. Si vous le pouvez, si elle est parente avec vous, si elle est intime, et si vous voyez qu'elle a un peu de souffrance et de douleur, serrez-la donc dans vos bras. Embrassez-les. Si vous la connaissez moins bien, essayez de lui offrir un cadeau, un signe de votre attention, de votre amour, de votre amitié, de votre compassion véritable, pas du chiquet. Une femme qui s'est faite avorter souffre. Les évêques nous invitent également à faire des pressions auprès du gouvernement pour que le gouvernement se réveille et qu'ils aident les femmes. Qu'est-ce qu'on attend pour aider les femmes qui ont en elles de petits innocents, de saints innocents, et qui se trouvent en difficulté pendant une grossesse? Que de femmes pauvres, que de femmes sans moyens, que de femmes désespérées qui ne sont pas aidées, alors qu'on dépense des sommes folles pour construire des appareils militaires dont on n'a absolument pas besoin. Je trouve ça inconcevable. A-t-on du respect pour nos femmes? Nous rendons-nous compte, nous, les hommes en particulier, que les femmes nous sont infiniment supérieures auprès de Dieu dans un sens, puisqu'elles sont infiniment plus intimement collaboratrices dans la création des êtres humains qui sont des êtres éternels. Nous rendons-nous compte. Quand je vous lis les textes de Jean-Paul Sartre sur Marie qui a porté son enfant et qui l'a mis au monde, quelle merveille, quelle tendresse Marie avait pour son fils. Il en va ainsi pour nos mères, et les mères ont cette tendresse qui dépasse tout entendement. Rien n'est plus beau que ce sentiment maternel profond quand il n'est pas déformé. J'aimerais, avec cet ami que j'aime beaucoup, Michel Séguin, prêtre au Grand Séminaire, j'aimerais conclure en citant un passage du dernier document romain traitant de cette question qui était le donum vitae, le don de la vie, paru en 1987, où le pape lui est revenu sur ces questions-là. Mais dans ce document romain, on disait, le fruit de la génération humaine, dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à l'être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L'être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être. C'est inviolable, inviolable. Et je ne comprends pas comment on peut penser autrement. Je n'arrive pas. Oh, j'ai du respect pour des amis qui croient que l'avortement est une chose acceptable. Je mange avec eux. Je suis prêt même à aller au cinéma avec eux, au théâtre, aller chez eux. mais je ne comprends pas. Je les estime quand même, mais je ne comprends pas. Est-ce que je suis aveugle? Est-ce que c'est parce que moi-même j'ai failli être avorté? Je ne sais pas. Car en 1926, ayant été conçu au temps du jour de l'an, j'ai appris vers l'âge de 45 ans, ou même avant, j'ai appris par ma mère que j'avais failli être avorté 3 mois après ma conception, et qu'elle m'a défendu contre mon père qui voulait cet avortement par pitié pour ma mère qui était malade. Mais ma mère sentait que j'étais là, comme une vraie mère. Et je la remercie de m'avoir sauvé la vie, et je suis très heureux de vivre, croyez-moi. Très heureux. Malgré toutes les difficultés qu'entraînent nos vies, c'est évident. Mais croire, vivre, aimer, connaître, c'est tellement merveilleux que je ne saurais comment vous dire jusqu'à quel point je suis heureux que ma mère m'ait sauvé la vie et que mon père m'ait si tendrement adopté quand je suis né, comme m'a dit maman. Il a pleuré et m'a serré dans ses bras. Et les pères sont des pères presque tous adoptifs. Nous adoptons nos enfants, comme moi j'en ai adopté un que j'ai aimé énormément, qui est mort. Mais on aime nos enfants. On aime nos enfants même adoptifs, car un enfant mérite toute notre attention, tout notre amour. Comme on dit dans la prière aujourd'hui, au début de la messe, « Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort, fais que notre vie entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. » Faut que notre vie entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Notre bouche, elle le proclame. Hein? Quand on va à la messe, on proclame, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. » Faut que notre vie soit conforme à ça. Faut que notre vie soit conforme à ce qu'on prie. Et c'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il est bon, même si l'on croit que les saints innocents, ça n'a pas existé, que ce mythe, que cette histoire qui nous est racontée dans l'Évangile est une histoire extrêmement importante qui mérite d'être commémorée aujourd'hui afin qu'on réfléchisse et qu'on prie. Et si on accepte ces textes comme historiques, à raison, à plus forte raison peut-être, doit-on prier pour que cesse ce massacre à travers le monde, et que surtout les gouvernements aident les femmes, et que nous puissions nous-mêmes aider des femmes qui sont mal prises.